Souvenirs de famille. Maurice Genevoix de l'Académie française est évoqué par sa fille unique, Sylvie Genevoix.
La phrase à laquelle je pense tout le temps et qui me répétait très souvent et qui est pour moi un viatique, un guide, c'est une phrase toute banale et qu'un père dit sûrement très souvent à sa petite fille. Il me disait « donne ta main ». Et je lui donnais ma main et il m'emmenait et il me guidait et il m'apprenait et voilà. Et même encore maintenant, il m'a tout appris, je pense, presque tout ce que je sais. Et même encore maintenant, j'ai l'impression de l'entendre et il me dit « donne ta main ». Et quand j'ai une difficulté, je lui donne ma main et il m'accompagne et je l'accompagne. C'était quelqu'un qui a été très marqué, comme moi sans doute, comme d'autres, comme beaucoup. Beaucoup d'écrivains disent que les premières années sont des années déterminantes. Et je pense que chez lui, c'est particulièrement évident. Donc pour évoquer un peu son enfance, c'était un petit garçon qui est né sur les bords de la Loire, à Decize, dans une île sur la Loire. Très vite, sa famille est allée s'installer à Châteauneuf-sur-Loire, qui était un autre gros bourg de Loire, à peine quelques centaines de kilomètres de là. Et à Châteauneuf-sur-Loire, il a eu une enfance du 19e siècle, de la toute fin du 19e siècle, puisqu'il était né en 1890. Et ses 10 premières années, il l'a dit, il l'a écrit dans un livre qui s'appelle « Au cadran de mon clocher ». Et ses 10 premières années ont été des années de bonheur absolu parce qu'il était entouré de ses parents qu'il aimait, d'une mère qui était très jeune, très gaie, très aimante, très tendre et qui adorait ses deux petits garçons. Et il jouait, il était en pleine nature, il allait à l'école, il y avait dans la même rue du village un grand-père, une grand-mère, des oncles, des tantes, toute une famille et avec des réunions joyeuses et familiales tous les jours, en tout cas toutes les fins de semaine. En plus, le père, enfin mon grand-père, qui était clerc de notaire de son métier, avait pris la succession provisoirement de son beau-frère, je crois, qui était souffrant, pour reprendre la direction de l'épicerie familiale, qui était une épicerie en gros, enfin en gros quand même extrêmement modeste, mais les épiceries de l'époque, ça vendait de tout, du lait, des œufs bien sûr, mais aussi de la confiture, des boutons de culotte, des n'importe quoi, des clous, des tout ce qu'il fallait pour alimenter, achalander une maison. Et donc, il vivait dans cette atmosphère du magasin, ce qu'il appelait le magasin. C'est un endroit qui existe encore et qui m'a montré dans mon enfance. Et au milieu de toute la marchandise du magasin, au milieu des gens qui vendaient, qui approvisionnaient et qui faisaient fonctionner ce magasin, au milieu des chevaux et des animaux, parce que les chevaux livraient la marchandise un peu partout à 30, 40 ou 100 kilomètres, peut-être pas 100, mais enfin au moins 50 kilomètres à la ronde. Donc c'était une atmosphère très gaie, très authentique, très pleine de découvertes et pleine de nouveautés pour des petits-enfants. Et voilà, et il a été très, très, très heureux. Et en plus, il y avait déjà la Loire qui coulait à 50 mètres de sa maison, et où il apprenait déjà à nager, à pêcher, à se promener, à courir, à être libre et un peu aventureux, parce qu'il avait un tempérament très aventureux. Et quand il a eu 10 ans, comme malheureusement l'école s'arrêtait sûrement à Châteauneuf-sur-Loire, on l'a mis en pension. Il était bon élève et on l'a mis en pension à Orléans, qui était pas très loin, c'était à 17 kilomètres de là. Mais il n'empêche qu'il était quand même en pension, il ne sortait que pour les grandes vacances. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était vraiment un système militaire pas rigolo du tout. C'est-à-dire qu'il se levait à 5 heures en été, à 6 heures en hiver, les dortoirs n'étaient pas chauffés, il cassait la glace le matin pour faire un petit brin de toilette. Les cours commençaient, ils y allaient en études sans rien dans l'estomac de 5 heures ou de 5 heures et quart à 8 heures du matin. Tout ça au son du clairon, enfin c'était vraiment un régime pas rigolo du tout. Et il a été sûrement assez malheureux parce que c'était quelqu'un qui a passionnément aimé la liberté toute sa vie, détesté les contraintes. Et cette première contrainte du lycée l'a sûrement détesté. Et ça a marqué toute sa vie. Et puis après, à l'âge de 11 ans, donc un matin, il a été appelé dans le bureau du proviseur et il a vu tout de suite, il a senti sur le visage de cet homme qui était sévère et pas très expansif, une compassion qui lui a fait craindre le pire, et c'était effectivement la mort de sa mère. Et là, sa vie a changé, a basculé complètement. Il le dit, il raconte comment il a été un petit enfant malheureux, désespéré, révolté, doutant de tout, déchiré. Et il a des très belles pages, effectivement, où il dit que c'est sa mère elle-même, l'image de sa mère elle-même, qui l'a réconcilié avec la vie. Et il écrit dans 30 000 jours, le jour où moi-même je fermerai les yeux, le dernier visage qui s'imposera à moi sera le sien, qui m'aura toute sa vie accompagné et réconcilié. C'est des pages absolument magnifiques et bouleversantes. Il est resté pensionnaire au lycée Potier. En même temps, voilà, il y avait en lui une telle force de vie et une telle joie de vivre malgré tout qu'il a vécu. Il s'est fait des copains et il revenait pour les grandes vacances revoir son père qui était devenu un homme un peu plus sombre, triste, sûrement pas très rigolo quand il m'en parlait. Il n'a pas dû faire beaucoup de blagues avec son père et beaucoup s'abuser avec son père. Mais en même temps, il l'aimait, il s'aimait. Puis après, il a été pensionnaire au lycée La Canale. Comme il était brillant, on a dit qu'il faut qu'il passe les concours. Donc, il a préparé le concours de l'école normale supérieure, à laquelle il a été admis. Il a été admis dans un bon rang, mais il en est sorti premier. Mais il était beaucoup plus fier d'être sorti premier, parce qu'entre-temps, il avait fait son service militaire dans le bataillon de Joinville, dans la section de gymnastique, et c'est dire à quel point il était sportif et qu'il aimait ça. Il était sorti premier de sa promotion de gymnastique, et ça, il en était extrêmement fier. Il me racontait comment il faisait du cheval d'arçon, de la barre fixe. C'était un gymnaste extraordinaire. On a des photos qui sont absolument incroyables. Et en même temps, c'était un jeune homme qui aimait la vie, qui était beau, très très séduisant, très brillant, Et je pense que voilà, toutes les jeunes filles devaient être très séduites par lui. Et lui-même, voilà, envisageait une carrière universitaire ou une carrière de voyage, une carrière de conférence un peu dans le monde. Il avait envie de voyager, il avait envie de vivre, il avait envie de faire mille et une choses. Et puis, le 2 août 14, il était à Châteauneuf-sur-Loire et il a entendu sonner le tocsin. Et c'était la mobilisation générale. Donc, il avait 24 ans, à peine, même pas. Et voilà, et sa vie a basculé. Et il est parti le lendemain. Le dernier geste qu'il a fait, sans doute, après avoir dit au revoir à sa famille, c'est qu'il a voulu dire au revoir à son pays. Et il est monté avec un de ses cousins, qui lui s'est fait tuer très vite. Il est monté au clocher de son village, le clocher de Châteauneuf-sur-Loire. Et là, du haut du clocher, il a regardé la Loire, tout le bourg, les champs, les cultures. Il a regardé son pays et il s'est rempli de la beauté de son pays. Et il lui a dit au revoir. Et il lui a dit sans doute peut-être qu'il espérait bien revenir. Voilà, mais en même temps, il ne savait pas. Et puis il est parti, et puis la guerre a commencé. Et il l'a raconté dans ce 14. Ce que lui a appris la guerre, c'est la compassion. Parce que la compassion, c'est vraiment un terme qu'il caractérise très bien. Et la curiosité aussi en même temps. Et ça, il l'a dit jusqu'à la fin de ses jours, il a dit « ce qui me fait avancer, c'est la curiosité ». Il était curieux de tout, curieux des autres, curieux des êtres humains, mais curieux de ce qui se passait aussi. Et la guerre, au début, il a été curieux de voir ce qui se passait. Et quand je disais la compassion, c'est que il s'est trouvé donc du jour au lendemain dans un monde barbare et mais dans un monde totalement inconnu pour lui et qu'il a regardé avec curiosité parce que c'était un immense brassage humain. Cette guerre se retrouvait mêlée dans une même compagnie, des gens qui venaient d'horizons totalement différents, d'horizons sociologiques, d'horizons aussi culturels. La plupart d'entre eux parlaient encore le patois, parlaient même pas le français. Donc il fallait qu'ils communiquent entre eux et qui communiquent dans des situations absolument abominables. Et c'est l'horreur de cette situation justement qui les a fait se rapprocher les uns des autres et se souder les uns aux autres. Et donc, tout de suite, comme en plus il avait la fréquentation des autres et en plus il était lieutenant puisqu'il avait fait l'école militaire, la fameuse école militaire de Joinville. Il était d'abord sous-lieutenant puis très vite lieutenant. Donc il savait leur parler, il savait les aider, il savait calmer, apaiser leurs peurs et apaiser la sienne aussi sans doute. Et donc il s'est senti tout de suite très proche de ces hommes. Et donc il a écrit, après avoir été démobilisé, ces récits de guerre qui ont été réunis sous le titre « Ceux de 14 ». Et la fin de « Ceux de 14 », moi, ça me bouleverse personnellement beaucoup parce que donc il est horriblement blessé, il ne sait pas s'il va survivre, il est encore conscient, il sait très bien que la guerre est finie pour lui parce que voilà, parce qu'il est trop blessé pour pouvoir envisager de la reprendre un jour. Et au lieu de se dire « bon, mais je suis débarrassé de ces horreurs », il est désespéré parce qu'il quitte ses camarades. Parce qu'il les quitte, il a l'impression de les abandonner. Et c'est pour lui un déchirement absolu. Et Dieu sait qu'il n'aimait pas la guerre. Hein. Il n'était pas belliqueux, il n'était pas du tout. Hein. C'était pas Junger ou c'était pas d'autres. C'était vraiment un pacifiste. En même temps, c'était ses frères de combat, ses frères d'armes. Et après, s'il a écrit, c'est à cause d'eux et c'est pour témoigner, pour ceux qui étaient morts. Moi, il me montrait très souvent, c'était quand même assez bouleversant, il me montrait sa promotion à l'école normale et il avait écrit, une soixantaine sans doute, ou une quarantaine, je sais pas. Et il avait écrit en face de ceux qui n'étaient pas revenus, il avait écrit tué, tué, tué. Et il y en avait les deux tiers, je crois. C'était quelque chose d'épouvantable. On n'imagine pas l'hécatombe que ça a été. Il avait une phrase qui me frappait beaucoup. Il disait, à 25 ans, quand je me retournais sur ma vie, je ne voyais que des morts, pratiquement que des morts. Son meilleur ami anormal était mort aussi. Enfin, bref, il ne voyait que des morts. Et il a voulu témoigner pour ceux qui étaient morts et pour les garder vivants un peu. Il a dû avoir pendant un certain temps la tentation de se dire, la vie est trop difficile, mais vivre là en solitaire puisque les gens disparaissent, puisque c'est trop dur, et de vivre sa vie non pas en égoïste, mais en homme libre, il a eu, avant la Deuxième Guerre mondiale, une autre épreuve sûrement horriblement douloureuse. Il s'est marié tard. Et sa femme, qui était médecin, est morte très très vite, après 2 ans de mariage, même pas, je crois. Ça, c'est une partie de sa vie qui lui appartient et qui est très secrète et privée, mais il en a été certainement horriblement malheureux. Et c'est pour ça qu'il est parti tout de suite, dès ce deuil, il est parti tout de suite pour faire une tournée de conférences dans le monde entier. Il était au Canada quand il a appris la déclaration de la Deuxième Guerre. Et puis, il a voyagé partout, partout, aussi loin que possible, sans doute, pour se dire, la vie est trop dure, partons le plus loin possible, non pas pour fuir, mais pour, Son père, entre-temps, aussi était mort, il n'avait plus aucune attache en France. Et puis, finalement, il est revenu, il a rencontré ma mère en zone libre, elle-même était veuve. Et puis voilà, l'histoire après, c'est 40 ans d'un couple très uni, très aimant, et puis moi qui suis née, mais il avait 56 ans, je crois, si je calcule bien à peu près, quand je suis née, donc ça veut dire que cet engagement, il l'a pris quand même très tard, sûrement après avoir longuement réfléchi. Et après avoir fait le tour des malheurs, fait le tour des découvertes aussi, des bonheurs que peut donner la vie à un homme solitaire comme il l'était, mais il était probablement pas fait pour être solitaire et célibataire parce qu'après, il a été très heureux avec ma mère et il a été, ce que je tiens par-dessus tout à dire, il a été un père absolument extraordinaire. Il a été un père merveilleux, d'une jeunesse, d'une sollicitude, d'une attention et d'une patience avec moi totale, parce que il avait l'âge d'être un grand-père et en fait, il a été le père donc le plus attentif, le plus séduit par cette petite fille qui lui arrivait comme ça sur le tard. Pour nourrir sa création littéraire, il avait besoin de se frotter aux arbres, aux animaux, aux fleuves, à la nature et de les embrasser tous et toutes avec passion et avec un amour infini parce qu'il disait que finalement, Quand j'ai parlé tout à l'heure de l'épreuve de la guerre, il y en a d'autres qui en sont sortis de cette épreuve complètement brisés, complètement abattus, amers, désabusés, déçus de tout et avec un caractère extrêmement aigri. Lui, au contraire, ça lui a donné encore plus l'amour de la vie. Il avait certainement des très bons gènes et ses premières années d'existence lui avaient appris à aimer la vie, mais là, il l'a aimé encore 2 fois plus, 10 fois plus, des millions de fois plus. Il a vraiment une passion pour l'existence. Donc, quand il s'est mis à créer, ses premiers livres étaient des témoignages de guerre, parce qu'il écrivait très régulièrement à Paul Dupuis, qui était le bibliothécaire de l'école normale et qui écrivait aussi aux étudiants de normale qui étaient sur le front pour essayer de leur remonter le moral et essayer de leur dire on vous oublie pas et tout ça. Et Paul Dupuis, quand mon père a été démobilisé, lui a dit mais c'est toutes ces lettres que tu m'as envoyées, il faut absolument les publier. Donc c'est comme ça qu'il l'a publié. Alors qu'il n'était pas du tout destiné à être publié. S'il avait choisi, il dit toujours qu'il aurait préféré être peintre parce qu'il aimait beaucoup les peintres et il aimait beaucoup lui-même. Il a toujours dessiné, il a fait des caricatures, il a fait, même pendant les séances de l'académie, il faisait des petites caricatures sur ses feuilles de notes ou sur les séances du dictionnaire. Voilà. Donc, pour écrire, quand il avait un sujet en tête, il commençait par se documenter. Par exemple, pour écrire à Beaulieu, c'est l'exemple le plus fameux. Il est allé en Sologne, il a essayé de rencontrer des braconniers. Il n'en a pas rencontré parce que celui qui devait rencontrer lui a posé un lapin. Bref, mais il s'est installé au cœur de la Sologne dans une propriété d'un de ses oncles. Et pendant des mois et des mois, il a fait lui-même le braconnier. Il s'est mis à chasser à la lanterne. Il a appris à tendre des collets. Il s'est plongé. Il avait toujours des notes de documentation. Extrêmement précise, avec des croquis, avec des vraiment, il faisait une documentation mais incroyablement fouillée et précise. Et là, donc, on avait peut-être un peu le sentiment qu'il ne travaillait pas réellement parce qu'il se promenait, parce qu'il marchait, parce qu'il réfléchissait. Et puis, quand c'était fini, il se mettait à écrire et là, il avait vraiment des horaires, il s'imposait des horaires terribles, enfin des horaires de bénédictin. Il travaillait le matin à 9h du matin, 9h30 jusqu'à l'heure du déjeuner. L'après-midi, il s'y remettait à 3h. Après, il me disait « donne ta main » et on allait se promener un petit peu, mais pas beaucoup, une heure et demie. Et puis, il s'y remettait jusqu'à l'heure du dîner et il recommençait après le dîner. Donc, il avait un rythme de travail qui était vraiment très, très intense. Et voilà, il lui fallait à peu près entre 3 et 6 mois pour écrire un roman. Mais il l'avait longuement mûri avant, préparé. Et en réalité, c'était un homme qui travaillait énormément. Il a travaillé toute sa vie, beaucoup, 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 beaucoup. Le mot compassion n'est pas un mot suffisant, est un mot essentiel, mais c'est pas nécessairement un mot suffisant. Je pense que la compassion, il l'avait pour ses camarades morts et il voulait absolument que leur mémoire demeure. Donc c'est pour ça qu'il s'est attaché à garder vivant d'une certaine manière. Mais après, je crois que la guerre a tout changé pour lui. Je crois que tout ce qu'il avait envisagé, les voyages, tout ça, il pouvait plus le faire parce qu'en plus, après la guerre, il a eu la grippe espagnole qui, comme vous le savez, a tué pratiquement autant d'hommes que la guerre elle-même. Donc, il était extrêmement fragilisé physiquement. Il est retourné sur les bords de la Loire. Et là, comme il avait quand même en lui une immense culture déjà qui était venue de ses études, qui était venue de toutes les lectures qu'il avait faites, et il avait besoin de s'exprimer. Il avait besoin de faire quelque chose. C'était pas quelqu'un qui se laissait aller, qui se laissait abattre et qui, il avait vraiment besoin. Donc, comme les voyages lui étaient un peu interdits, il avait essayé de peindre parce que ça lui plaisait beaucoup. Mais il s'est rendu compte, dit-il, très vite, qu'il n'avait pas de talent. Qu'il avait un talent, voilà, pour dessiner des animaux. D'ailleurs, il a illustré lui-même ses bestiaires. Mais qu'il n'avait pas le talent de ses amis Vlaminck ou de Rhin ou d'autres. Et voilà. Donc, il s'est dit, les mots sont des outils que j'ai en ma possession. Et comme j'ai envie d'exprimer cet amour fou que j'ai de la vie et des beautés de la nature et de la Loire en particulier, eh bien, comment les exprimer? Les aquarelles que je fais, elles ne sont pas géniales, donc je vais me servir des mots. Et le premier roman vraiment qui, pour lui, qui a compté pour lui, qu'il a écrit après la guerre, peu de temps après la guerre, était Rémy Desroches, l'histoire d'un jeune garçon qui était amoureux de la Loire. Et en fait, ce jeune garçon, c'est lui beaucoup. Et c'est à partir de là qu'il a compris que sa vocation et son avenir, c'était dans l'écriture. Et toute sa vie, il s'y est voué, souvent avec du courage, parce que c'est pas évident de se dire que, voilà, on écrit, on ne va faire que ça. Il faut avoir une certaine détermination, un certain courage. Il y a certainement des moments d'angoisse, des moments où on se dit comment on va boucler la fin du mois, comment... Donc, il s'est installé au Vernel, dans cette maison qu'il a trouvée, où il a habité à partir de 1926-27. Après le prix Goncourt, il a eu le prix Goncourt en 1925 pour Rabolio. Donc, il a conforté dans sa décision. Il s'est dit, la direction que j'ai prise est une bonne direction. Il continuait à dessiner un peu, mais il décrivait. Et puis, il a trouvé cette maison des Vernelles à laquelle il s'est attaché énormément et où il a vécu jusqu'à sa mort avec beaucoup d'allers-retours à Paris et beaucoup de séjours à Paris et beaucoup à nouveau de voyages. Mais c'était vraiment son port d'attache, c'était le lieu où il réfléchissait, où il imaginait ses romans, où il créait et où il les écrivait aussi. Il a, je crois, pratiquement rien écrit d'autre ailleurs qu'au Vernel. Il adorait l'académie parce qu'il adorait ses confrères académiciens, peut-être pas tous certainement, mais enfin il avait avec eux une vraie complicité, une vraie camaraderie, une vraie... je crois que comme il était assez solitaire sur les bords de Loire, auprès d'eux, il trouvait vraiment une fraternité, une camaraderie et puis des plaisanteries et puis une complicité intellectuelle aussi qui pour lui était très importante. Et il a beaucoup, beaucoup aimé l'académie. Il a été très heureux aussi d'en être le secrétaire perpétuel. Je crois qu'il s'est, je suis même certaine, je l'ai vu, je l'ai vécu. Il s'est beaucoup voué au rayonnement de l'académie, au rayonnement de la langue française, au prestige de l'académie. Il a vraiment donné tout ce qu'il a pu et apporté beaucoup à l'académie. Et puis, au bout de 15 ans au secrétariat perpétuel, il s'est dit, il avait à ce moment-là plus de 80 ans, il s'est dit, j'ai encore des livres à écrire, l'académie me prend quand même énormément de temps. Pendant toute l'époque du secrétariat perpétuel, c'était l'époque des livres par, je dirais pas par fragments, mais les bestiaires, parce qu'il pouvait les écrire chronique après chronique et il n'avait pas besoin d'avoir un isolement total de 3 mois ou de 6 mois ou même plus pour écrire un roman il y avait plusieurs livres comme ça pendant la période de l'académie, donc il s'est dit j'ai encore des choses à dire et donc il a démissionné du secrétariat perpétuel et il a publié Un jour, qui est un livre auquel il tenait énormément depuis très très longtemps et qui est un livre magnifique et qui a eu un succès et un retentissement très grand. Voilà, et après il a publié 30 000 jours, il a publié un autre roman qui s'appelle Le Relais, et voilà, il était en train d'écrire un roman qui s'appelait L'Enfant et le Château quand il est mort en 1980. Et maintenant, c'est moi qui prends le relais et qui espère vraiment lui rendre un tout petit peu de l'immensité des cadeaux qu'il m'a fait, des cadeaux de vie. Il avait vraiment un regard sur le monde extrêmement curieux et extrêmement enrichissant pour les autres, parce qu'il avait les outils pour l'exprimer et pour le dire. Et puis, des sentiments humains quand même qui étaient tout à fait exceptionnels. Il a décrit aussi bien les hommes, les animaux, les relations entre les uns et les autres, et le monde sous un jour quand même tout à fait inédit, nouveau. Et d'une immense sensibilité, et ses idées, enfin, qu'il avait, qu'il a eu toute sa vie, et qu'on n'appelait pas à l'époque l'écologie, sont devenues incroyablement à la mode, si je puis dire aujourd'hui. Mais vraiment, il a été, on l'a dit 20 fois, 10 000 fois, il a été le premier des écologistes, même si écologie, ça, mais dans des livres, il y a 40 ans ou il y a 50 ans, il disait des choses qu'on pourrait considéré comme des inédits aujourd'hui, enfin comme totalement d'actualité aujourd'hui. Et je pense que les jeunes ont énormément à apprendre dans ces livres.
Après des études de lettres classiques à la Sorbonne, Sylvie Genevoix a mené conjointement une carrière dans l'édition, la presse et la télévision. Actuellement directrice littéraire aux éditions Albin Michel, où elle est entrée en 1992, la fille de l'auteur de Rabolio a fait paraître aux éditions Pirot, La maison de mon père.